Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, j'ai envie de parler de moi, ben, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Mais il faut savoir que chaque jour est un combat. Le lendemain, il faut tout refaire. Il faut aller chercher. C'est merveilleux. Aller chercher les gens qui ne veulent pas, qui se refusent, par pudeur. Comme ça, lentement. On ne peut pas tricher.
Un invité. Partez à sa rencontre. Prenez le temps de partager. L'instant 2
sur Radio Grenouille.
Vous vous rendez compte quand même, les jeunes d'aujourd'hui, selon un sondage paru au mois d'avril dans un quotidien, sont en priorité intéressés par le salaire dans leur travail. Le 1er mai, en général, on a coutume de parler de travail, et bien nous n'allons pas tout à fait se coller à la règle, on va y déroger même quoi que si, un petit peu juste pour le plaisir de le faire. On va parler de travail, mais d'un travail particulier, celui de l'image. Sorti en France le lendemain de la Saint-Valentin, fête commerciale par excellence, tout ce qu'on adore dans cette émission, vous comprendrez l'ironie, Sac la mort, ce film salué par la critique, au titre pourtant assez peu alléchant, je vous l'accorde, parle à sa façon d'amour. Oui, d'amour, pas de tout repos, mais d'amour quand même. D'amour des gens, des amis, des femmes, des féticheurs, des sorcières, des rêves, de l'errance aussi, et bien sûr de l'île de la Réunion, de cette île aux mille visages, aux mille cultures réunies dans une seule langue, le créole, vivant, vibrant, vaillant. Et quand les effluves de Rome non arrangées, c'est toujours mieux, rencontrent la puissance des mots et la caméra sans frontières de notre invité, Emmanuel Parot, c'est toute l'histoire, les histoires d'ici et de là-bas, comme je l'ai si souvent entendu, ce déracinement spatial dans la bouche de mes amis réunionnais, qui se croisent, se crissent et s'accrochent à notre regard, tantôt émus, puis amusés, interloqués par les codes aussi et les usages sorciers, ou transportés par les croyances d'une poule offerte en sacrifice, les croyances de celles et ceux qui rêvent peut-être à d'autres mondes. À La Réunion, vous savez, on dit, ou du moins la légende, si vous y croyez, que tous nos malheurs peuvent être enfermés dans un passif vulgaire sac en plastique, et puis abandonnés, comme ça, sur le bord d'une route, pour conjurer le sort, le mauvais œil, la chkoumoune, enfin, c'est ça, le fameux sac la mort. Et bien, dans l'instant 2, ce mois-ci, on vous propose de prendre tous vos malheurs, les petits comme les très gros, ceux du 1er mai, du premier tour, de l'entre-deux, du jour d'après, de les mettre dans un sac en ondes, de fermer les yeux, de poser le sac où bon vous semble et puis de tendre l'oreille. Nous, on a une heure pour tous les sublimer, ces malheurs, ensemble, parce que franchement c'est plus chouette. Le temps d'oublier les périls du passé, les échecs du présent et l'incertitude de demain. Parce que le cinéma, le travail de titan que demande le cinéma, c'est déjà ça. Moteur, silence, ça tourne, bienvenue dans votre émission mensuelle qui actionne les leviers de la parole. Bienvenue dans l'instant 2 du mois de mai qui ne sent pas le muguet, mais bel et bien la vanille.
Un moment s'il vous plaît.
Bonjour Emmanuel Parot.
Bonjour.
Est-ce que vous sentez la vanille ?
Elle est à 11 000 km de là, mais enfin, on peut en trouver. Hein.
Est-ce que vous sentez la vanille, vous qui êtes réalisateur et réunionnais de cœur ? Comment on dit quand on aime la Réunion à ce point et qu'on y a grandi ?
Ah oh là 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 là.
On dit quoi ? D'origine, de cœur, d'âme, d'esprit ?
J'ai envie de dire d'âme, peut-être, oui. C'est plutôt ça. Et puis aussi d'émotion. À La Réunion, c'est quand même, pour moi, la découverte d'une manière d'être avec l'émotion qui ne m'a pas donné le sentiment d'être voyeur de quelque chose et qui ne m'a pas empêché de penser non plus. Et quand l'émotion est aussi belle et en même temps ne nous met pas dans un état où on se laisse manipuler, eh bien oui, là, j'en veux bien, moi.
C'est à 22 ans que vous rentrez dans, allez, votre magie des salles obscures, votre premier coup de cœur de cinéma, c'est là que ça se passe ?
Oui, à 22 ans, je prenais des cours de théâtre pour devenir acteur. Et puis, ma voisine, avec qui je devais faire un travail le lendemain, me dit « Je vais prendre un texte de Marilyn, que disait Marilyn Monroe dans tel film. » Et moi, je lui dis « Mais c'est qui Marilyn Monroe ?» J'avais 22 ans.
Et vous êtes réalisateur de cinéma aujourd'hui ? Tout va bien ? Comme quoi, tout est possible.
Oui, tout à fait. Oui. Avant, je considérais que le cinéma était un art bourgeois et qui nous détournait de l'essentiel. Et puis là, j'ai eu l'air tellement bête qu'en sortant, j'ai poussé la première porte du cinéma venu à Lyon. C'était Chinatown. Et là, j'ai été saisi et je m'en suis plus jamais remis. À partir de ce jour, je suis tombé amoureux de Faye Dunaway, évidemment, mais pas seulement, du film de Polanski, du cinéma. Et je me suis mis à voir 5 films par jour. Pendant 3 ans, j'ai vu 5 films par jour.
On est déjà au mois de mai. En mai, vous savez, quand on aime le cinéma, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les festivals d'ailleurs, le festival de Cannes va s'ouvrir. C'est le 70e festival, déjà. Polanski, vous l'avez cité, on attend son film avec beaucoup d'impatience, comme d'autres. L'idée n'est pas de parler de Cannes, mais de parler de votre présence à Cannes avec le film dont on parlait, Sac la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une jolie histoire quand même, ce petit film d'auteur, sans être du tout péjoratif sur le terme petit, en créole, qui nous vient de La Réunion, arrive à Cannes. Comment et pourquoi?
En fait, il est arrivé grâce à l'ACIDE. L'ACIDE, l'Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion. C'est une association qui a été créée maintenant depuis 25 ans, je crois. La force de cette association, c'est que c'est des réalisateurs qui se sont regroupés. Imaginez une quarantaine de nombrils sur pattes qui décident de s'associer pour que leurs films, qui sont peu diffusés ou mal diffusés, puissent être diffusés plus fort.
Il y a un petit portable qui sonne.
Oui, il faut reprendre là.
Non, bah sinon on va faire, bah, on est en direct, c'est pas grave.
Ah
non,
bon,
non, bah écoutez, est-ce qu'il va ressonner en fait la question à un réalisateur de cinéma qui est très occupé et qui est occupé par la tournée de son film Sac la mort, c'est est-ce que le portable va sonner à nouveau?
Écoutez, je vais appeler le guérisseur sorcier de La Réunion, c'est lui qui va me dire. Hein.
C'est très bien, belle transition Emmanuel Parot, l'invité de l'instant 2. On va justement écouter un extrait de Sac la mort. Ce film est sorti le 15 février 2017, vous en êtes le réalisateur, le metteur en scène et le scénariste. L'histoire, j'aime pas trop la raconter avant d'entendre ou de voir le film. Alors écoutons, il a été, pour celles et ceux qui nous écoutent, traduit, puisque tout le film est en créole. Donc on écoute Sac la mort, un extrait en tout cas de la bande-annonce, puis on revient juste après que vous ayez éteint nos portables.
Sauvé ou là?
Qu'est-ce que tu veux?
Hé, hey, Patrice, m'a tué de fou, Olivier, mais comprends pas.
J'ai tué ton frère, je comprends pas.
Il a pas connu ça? Non, mais je me connais pas de réaction, comment il est, moi.
Pourquoi t'es venu avec ça? Je sais pas comment tu vas réagir.
Alex, quoi?
Elle m'a dit de prendre un couteau pour tuer le mec, et lui, il est d'accord.
Non. Oula. En train de monter la tête de mon camarade là.
Toi tu montes la tête de mon pote.
Il respecte cette chose au moment là de moi.
Je lui dis de respecter ce que sa mère lui a demandé.
Laisse la loi faire son travail. Et dans l'enfer où ton père poule. Le dé à la mort il saoule. Ou à quoi il est. Il saoule. Il saoule,
j'imagine qu'en créole ça veut dire il nous saoule, Emmanuel Parot, c'est ça?
Oui, en fait dans le créole réunionnais il y a beaucoup de faux amis.
Et celui-ci en est un, c'est précisément la raison pour laquelle je le souligne. Alors ça veut dire quoi, il saoule?
Eh bien ça nous rend saoule, l'odeur de la mort nous saoule.
Ah.
Et quand on connaît Charles-Henri,
Charles-Henri c'est celui qu'on entend, donc il chante hein,
oui, absolument.
Dans la bande-annonce de votre film.
Oui, tout à fait. Et quand on connaît Charles-Henri, on a fait une scène où Patrice est censé tomber en syncope et tout le monde croit qu'il est mort. Et je crois que j'ai jamais vu Charles-Henri aussi fébrile et joyeux à ce moment-là. Et je lui ai demandé, mais c'est que pour lui, la mort est une fête. Et donc il le vit totalement différemment. C'est le moment le plus important de la vie. C'est le moment où tout le monde s'intéresse à soi. Et donc pour lui la mort c'est une célébration et pas du tout quelque chose de triste. Et moi j'ai trouvé ça extra comme,
Oh, bah oui, c'est sûr que c'est très différent de la métropole. On va employer ces mots là parce qu'on est entre guillemets bien obligé quand on parle de la
oui.
Réunion de dire la métropole et les îles hein, qui font partie intégrante de notre pays évidemment, qu'on a un peu oublié hein. On pense à la Guyane dernièrement par exemple
Je me suis fait reprendre l'autre jour parce que je parlais de métropole et une personne qui travaille beaucoup du côté des Antilles m'a dit oh, « Emmanuel, on ne dit plus métropole, ça fait colonie, il
Alors
faut dire hexagone ». Bon,
oui, bon,
comme dirait Proust, l'homme ne sachant pas changer le cours des choses, il change les mots.
Les mots, on va y revenir. Et le créole dans un instant aussi. Je reste sur votre film un instant, Emmanuel Parot, Sac la mort. Globalement, l'histoire, c'est Patrice, vous l'avez déjà cité. Un personnage qui est d'ailleurs amateur, hein, comédien amateur et pourtant... brillantissime.
Oui, plus qu'amateur, puisqu'il se définit même pas comme quelqu'un qui veut devenir comédien.
C'est ça.
Il a ça dans la peau. Il a tout compris de l'acteur studio sans avoir jamais rien lu sur le sujet.
Ça s'appelle le talent, ça, non ?
Je crois.
Et Patrice, donc dans votre film, son frère est tué. Hein, on part de cet état de fait, vous parlez de la mort, donc on parle d'un fait très angoissant, on est quand même assez angoissé dans votre film, c'est un peu étriqué, puis parfois tout s'ouvre avec le bruit de la mer, le bruit des vagues, avec les images magnifiques de la Réunion, et puis des gens qui chantent, qui se rencontrent, ça aussi, ça ouvre tout ça. Et puis, il essaie de faire quoi avec son sac la mort, Patrice? Il essaie quoi? De chasser le mauvais œil? Pourquoi il essaie de mettre tous ses malheurs dans un sac plastique?
Je pense qu'il y a plusieurs options. La première, c'est qu'effectivement, ça fait partie des rituels. Et donc, il est dans le respect de ces rituels. Donc, pratiquer le sac la mort, c'est une manière de suivre la règle et d'être faire partie intégrante du groupe. Ça, c'est une des premières choses.
Bon, de ne pas être à la marge.
Absolument. Mmh. Alors que, bon, le personnage est évidemment quelqu'un qui est à la marge. Il est dans le fait noir. Le fait noir, c'est là où il fait noir. C'est là où on est repoussé quand on est un paria. Mais c'est aussi là où on va se cacher derrière les arbres, dans sa case, au creux d'une ravine, de façon à échapper à la violence de la société pour se retrouver soi-même avec ses amis. Et le sac la mort, c'est aussi... je relisais le texte de Frantz Fanon qui s'appelle « Les damnés de la Terre » et lui, il donne une autre explication. Il dit que puisque le colonisé n'a pas la possibilité de faire face à la violence du colon, eh bien, il trouve, des ersatz et des pratiques comme celle-ci. C'est une manière de retourner la violence contre soi et de se donner une fatalité puisqu'il y a le sac la mort et que le sac la mort se transmet de toute façon... Elle ne disparaît pas, et bien c'est une façon de rester un petit peu dans sa fatalité.
Ces ersatz-là, ce sont les croyances, les sacrilèges, les sacrifices, tout ce qui nous paraît étranger quand on ne connaît pas forcément la Réunion et ses traditions. C'est ce qui permet aussi de, vous l'avez dit, de dépasser la violence. On va revenir un instant, si vous le voulez bien, avec vous, Emmanuel Parot, au créole, puisqu'on a la chance d'avoir un linguiste qui nous rejoint dans les studios de Radio Grenouille. C'est le moment de se pencher un peu sur cette langue qui est partie intégrante de votre film Sac la mort.
Décalé.
Décalé.
Chronique décalée.
Chronique décalée.
Et c'est un linguiste qui travaille en général sur la Provence, le provençal, qui a bien voulu nous rejoindre. Médéric Gasquet-Cyrus, merci d'être là avec nous. Le créole, finalement, quand on y pense, c'est une langue de mélange. Ça, globalement, on le sait, mais c'est aussi une langue de violence, finalement.
Le créole, c'est quand même le fruit de l'esclavage, puisque c'est une langue qui est née dans ces conditions particulières de l'esclavagisme, hein, et c'est comme ça que naissent les créoles partout dans le monde. Donc ça n'a pas été conçu au départ comme une langue de lutte, mais dans le souvenir, c'est quand même la langue des noirs, des nègres, par rapport aux maîtres, aux blancs. Alors c'est traversé différemment, que ce soit en Caraïbes ou dans l'océan Indien, mais effectivement, ça reste le symbole de la langue du dominé, de l'écrasé, de celui qui a servi.
Si je vous suis, toujours aujourd'hui, c'est encore la langue de l'esclave, de celui qui a été dans le passé dominé.
Oui, alors les situations des créoles sont très compliquées. Le statut des langues créoles n'est pas toujours le même. Hein. À l'île Maurice, c'est un peu mieux qu'à La Réunion, parce qu'on est dans un contexte francophone et français, où les langues dites régionales, entre guillemets, sont maintenant ignorées, on ne va pas dire écrasées, mais ignorées. Donc ça reste toujours une langue qui est en situation d'infériorité. Et ce qui est plus grave, notamment chez ceux qui la parlent. Et à La Réunion, beaucoup de gens, notamment, ne veulent pas que leurs gamins apprennent le créole à l'école, même si l'État fait quand même des efforts pour que ce soit fait. Et ça, c'est l'intériorisation d'une domination.
Justement, on va y revenir, hein, Médéric Gasquet-Cyrus, avec notre invité Emmanuel Parot, qui raconte dans une interview, et vous me reprendrez, Emmanuel, si je me trompe, que Patrice, le personnage de votre film, de son film Sac la mort, petit, n'avait pas le droit de parler créole à l'école et se faisait tirer par l'oreille par le professeur jusqu'au tableau. Donc si je reprends votre point de vue de linguiste, parler créole, vouloir revendiquer son identité, c'est déjà un acte de violence et de revendication politique.
Ouais, alors c'est vrai que parler créole, c'est presque pour certains un acte de résistance, un acte politique. Et effectivement, il y a tellement eu de moqueries, où il y a tellement encore de moqueries, de sanctions sociales quand on parle créole, ou même quand on écrit. Il y a des écrivains qui essaient d'écrire le créole, de traduire des textes en créole, de faire de la littérature en créole, que effectivement, ça reste jamais évident. Et puis effectivement, si l'école a un discours de sanctions comme ça, même par un petit trait de rouge ou par une brimade, ça peut avoir des effets dévastateurs sur quelqu'un.
On vous garde encore un instant pour parler du devoir de mémoire et de l'avenir. Hein. Le devoir de mémoire doit-il alors passer, Médéric, par une acceptation totale de la langue créole?
Oui, parce que l'histoire des créoles, elle fait partie intégrante de l'histoire de France, du coup. Et si on veut comprendre cette histoire, il ne faut pas nier ça. Il faut au moins le comprendre, il faut au moins lui laisser sa place naturelle, et ne pas faire comme si ça n'existait pas. Donc effectivement, mieux comprendre que les créoles, ce ne sont pas des sous-langues, ce n'est pas du mauvais français, ce n'est pas du petit nègre, ce n'est pas de la déformation, ce n'est pas du mélange de langues, mais ce sont de vraies langues qui sont nées dans des conditions particulières. Ça, ce serait important, effectivement, pour la mémoire, pour l'histoire tout court. Et on a besoin d'histoire, on a besoin de savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va.
Ça sent un petit peu Albert Camus et André Malraux, tout ça. Merci beaucoup Médéric Gasquet-Cyrus de nous avoir rejoints dans l'Instant 2 ce mois-ci. Je rappelle que vous êtes linguiste, professeur à l'Université Aix-Marseille, et puis pas seulement sur les 3-8, sur Radio Grenouille, mais aussi sur France Bleu Provence. On peut vous écouter tous les matins.
Décalé.
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 Chronique.
Chronique.
Décalé.
Décalé.
Chronique. Décalé.
Chronique. Décalé.
Toujours dans l'Instant 2 avec Emmanuel Parot, réalisateur de Sac la mort, ce film en créole salué par la critique. On y reviendra quand vous entendez cette analyse d'un linguiste finalement qui travaille sur le provençal, hein, je tiens à vous le dire, c'est ça qui est très intéressant. Parler du créole, vous vous y retrouvez complètement, Emmanuel?
Oui, j'ai rien à rajouter dans tout ce qu'il a dit, si ce n'est que de manière très concrète, tout à l'heure vous parliez de Charles-Henri qui se faisait tirer l'oreille pour aller au tableau, c'est plus que ça. C'était dans les années 70, donc c'était avant.
J'ai un côté bisounours, j'aime pas la violence.
Ouais. Et bien là, ouais. Il le prenait par les deux oreilles, il lui plaquait le visage sur le tableau, il effaçait le tableau avec son visage et il lui disait que puisqu'il parlait en créole, il valait moins que le chiffon à poussière qui lui servait à effacer le tableau.
C'est nettement plus violent, je vous l'accorde.
Voilà. Par ailleurs, Charles-Henri, lui, n'a rien abdiqué. Charles-Henri, c'est quelqu'un qui me dit... et Patrice aussi dit ça, il dit de toute façon nous on parle en créole, on pense en créole, on rêve même en créole, donc on est dans cette langue là et ils le disent en toute simplicité. Et quand il s'est agi de choisir la langue dans laquelle le film allait être, pour moi c'était absolument évident, et c'est un choix politique assumé de ma part,
et revendiqué
que le film serait en créole, une langue que je ne parle pas mais que je respecte. Et je pense que personne n'aurait l'audace de demander à un acteur japonais, néo-zélandais ou américain de parler en français.
Vous la reprochez hein, d'avoir fait un film en créole, même des réalisateurs réunionnais, je crois. J'écoutais votre interview sur RFI. Hein, on n'a pas été tendre avec vous.
Non, alors on m'a dit, mais c'est idiot de faire ça, ton film sera diffusé nulle part si tu
faux.
Le fais en créole.
Faux.
Et bien sûr que c'est faux.
Voilà, il a été diffusé.
Évidemment, et puis il est allé même à Cannes, vous voyez.
Comme
et
quoi.
Il est le premier film en créole réunionnais qui soit allé dans une sélection cannoise, donc c'est parfait.
C'est la passion pour l'île de la Réunion qui vous a porté, ou la rencontre il y a 7 ans, je crois, de ce fameux Patrice, Charles-Henri, qui sont les héros de votre film Sac la mort, qui vous a porté à assumer, même face aux critiques, en fait, de porter ce film en créole jusqu'à Cannes, comme vous le dites à l'instant.
C'est l'un et l'autre. C'est la découverte d'une manière... d'être dans l'émotion qui a fait pour moi... Qui m'a bouleversé et qui a bouleversé l'esthétique de mes films, qui étaient des films extrêmement sobres, un peu, je dirais même, cul serré. Voilà.
Vous avez beaucoup d'autocritique, c'est une qualité.
Oui, c'est ça. Et puis la découverte aussi d'une manière de la magie, en fait, et d'une autre culture qui s'assume comme telle et qui est encore plus compliquée qu'une autre culture complètement différente. Par exemple, vous allez en Papouasie, c'est tellement évident que c'est une autre culture, que ça pose pas de questions. À La Réunion, les gens sont très occidentalisés d'un côté, et de l'autre, ils ont une culture qui est tout à fait autre, qui n'est même pas ni africaine, ni indienne, ni rien, elle est autre chose encore. Et donc, ce risque-là de l'ethnocentrisme, pour moi, ça a été une leçon, et je me suis dit, mon gars, mets-toi au boulot, essaye de comprendre, et avance comme ça. Voilà, après, bien sûr, j'ai un vieux fond politique, et l'idée de faire un film...
Pas si vieux.
L'idée de faire un film là où personne ne va, bien sûr, ça m'a fait plaisir.
Et bravo pour ça, parce que vraiment, c'est une réussite, et c'est pas pour rien que vous êtes dans l'Instant 2, un 1er mai, qui plus est, vous voyez, la politique est toujours là, et le travail aussi, puisque vous en parlez, le cinéma, c'est du boulot. Vous dites souvent, à La Réunion, tout est plus intense. Voilà, on dit que le cinéma est plus fort que la vie, mais ici, la vie, c'est la même chose que le cinéma. Tout est plus fort. Et ben, je vous propose qu'on réhabilite le créole sur les 3-8, sur les ondes de Radio Grenouille, et qu'on mette encore, qu'on porte, j'allais dire, au plus haut, la musique, qui, si je reprends votre discours, Emmanuel Parot, est la substance même de l'émotion et des émotions. Votre choix musical est en créole. Est-ce que vous pouvez nous dire juste pourquoi, et puis on va l'écouter avec plaisir.
Eh bien, c'est une musique de Alain Peters. Je ne suis pas sûr de prononcer parfaitement bien son nom, mais c'est quand même, ça s'écrit comme ça. Donc moi, je suis un Gaulois, donc je prononce à la gauloise et je laisse aux Réunionnais la vraie prononciation. Oui, c'est un poète, un chanteur absolument extraordinaire, unique au monde, et qui a eu un destin tragique et qui est tombé dans l'alcool, comme on dit là-bas, qui a terminé pratiquement, il est mort dans la rue. Enfin bon, c'est un... Mais par ailleurs, ses chansons sont bouleversantes et c'est la Réunion vraiment intrinsèquement pour moi.
Et le titre est magnifique et ce qui est fou, ça c'est la petite histoire dans l'instant de ce mois-ci, c'est que cette chanson nous a été donnée par la même personne qui m'a permis de vous connaître, Emmanuel Parot. Donc on pense très fort à Emma Lebeau et la chanson s'appelle « Manger pour le cœur » en espérant que la prononciation ne soit pas trop occidentale mais surtout remplie d'émotions. On écoute.
Ça si c'est même mi wa pour quand il a plein du côté de qui vient partout mi ça va tout ça mi comprend pas la toi wa ti wa tia tout le wa ti wa tia tout le toi ti wa tia oh qu'il est où la quand oh qu'il est où mon frère. Où la cantine, voir moi les misères. Oh, qu'il est où la dent, oh, qu'il est où mon frère. Oh, qu'il est où la cantine, voir moi les misères. Et trois n'a point rien, tout immense douleur. Et pas ti demande, maman, pourquoi à moi il plaît à Carina point pour le cœur, Carina point pour le cœur, Carina point pour le cœur. Oh, qu'il est où là-dedans, oh, qu'il est où bonheur. Où la dent, oh, manger tous les cœurs. Oh, qu'il est où la dent, oh, qu'il est où bonheur. Oh, qu'il est où la dent, oh, manger tous les cœurs. A pas l'espoir, tout le temps soleil levé. L'oiseau, la santé, moins si, moins va santé. Même les dire ma santé, si les dire ma santé, même les dire ma santé. Oh, qu'il est où là-dedans, oh, qu'il est où mon frère. Où la cantine, où moi les misères. Oh, qu'il est où la dent, oh, qu'il est où bonheur. Oh, qu'il est où la dent, oh, manger tous les cœurs. Oh, qu'il est où la dent.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.
Vous allez rencontrer quelqu'un.
Évidemment, comme chaque premier lundi du mois, merci d'être encore à l'écoute de cette émission, bientôt 2 ans et demi de rencontres. Et aujourd'hui, c'était Emmanuel Parot, le réalisateur de Sac la mort qu'on vous présente, film réunionnais sélectionné à Cannes, c'est comme ça qu'on dit, hein, Emmanuel.
Absolument.
Récompensé aussi.
Récompensé, oui, enfin...
Par la critique, pardon, j'ai pas terminé ma phrase. Ouais, récompensé par la critique, Libération, Le Monde, Slate, j'en passais des meilleurs.
Transfuge. Le Canard Enchaîné.
Ouais.
Et en plus, ce qui était assez merveilleux, c'est qu'on a eu la réponse la veille de la sortie du film. On attendait très, très, très angoissé le retour des critiques. Rien ne venait, bon, et soudain, tout est tombé. Dans la même journée, il y a eu 11 critiques qui sont tombées. À chaque fois, c'était youpi, quoi.
Et le public, alors, parce que vous l'avez, on rappelle, c'est en créole. Si vous n'avez pas vu, on vous invite à essayer de toutes les manières possibles et inimaginables de le voir. Ça clamore, c'est 1h15 en plus. Si vous n'aimez pas les films trop longs, c'est parfait. Il a été reçu comment? Et je vais vous poser la question. À La Réunion et en métropole ou dans l'Hexagone. On va prendre les deux termes. Hein.
À La Réunion, il y a eu une avant-première en septembre. Je crois que c'est la projection la plus hallucinante de ma vie. Tout était parfaitement comme je l'avais espéré. C'est-à-dire que les moments drôles où nous, au montage, à chaque fois qu'on montait, parce qu'on a passé quand même pratiquement 14 semaines dessus, on riait et on se disait « Ah, quand même, Charles-Henri, ah là là !» Et puis Patrice, ah, qu'est-ce qu'il est touchant et émouvant. Et donc, les gens riaient là où on pensait qu'ils devaient rire et ils étaient émus. Il y avait un silence absolument absolu dans la salle, dans certains passages où Patrice est quand même, pour moi, génialissime. Quoi.
Patrice, le personnage de Sac la Mort, on le rappelle, pas du tout comédien. Vous parlez de lui avec une sincérité et une franchise. J'ai même entendu de votre bouche, Emmanuel, que vous disiez, voilà, Patrice, il passera pas les 60 ans parce qu'il a beaucoup bu, en fait, et que ça fait partie, l'alcool, d'un fléau. Et vous le dites comme tel à La Réunion. C'est cette clarté dans le film et dans votre discours qui est appréciable aussi, c'est que bon, on s'embête pas trop avec les ronds de jambes et les euphémismes. Et pourtant, en même temps, cette franchise dénote d'un amour profond pour vos comédiens et pour ces rencontres-là.
Oui,
c'est le même amour pour le public, j'imagine, qui le reçoit.
Oui, c'est-à-dire que, ça me joue des tours, mais je pense être quelqu'un d'extrêmement sincère. Je suis pas très stratège, j'ai jamais bien joué aux échecs. Et je dis les choses comme je le pense, donc parfois ça sort pas, c'est mal reçu. Mais avec Patrice et Charles-Henri, c'est, je crois, le fondement même de notre relation, c'est qu'ils ont compris que j'étais quelqu'un de sincère, que j'étais sincèrement ébloui par leur talent, et que, par ailleurs, on ne se cache rien, ils sont alcooliques. Ils le savent et je le sais et je ne cherche pas à faire semblant de ne pas savoir ou voilà. Et puis surtout, ils savent que effectivement, un alcoolique qui boit une dose de rhum très importante chaque jour, son espérance de vie autour de 50 ans. Chaque fois qu'on se quitte, ils me disent reviens vite parce que dans 6 mois, tu sais, si ça se trouve, on sera mort. Et ils se trompent pas complètement. Leur entourage, Patrice a un oncle qui est atteint de la gangrène. On lui a coupé la jambe. Aujourd'hui, la gangrène est dans la colonne vertébrale. C'est terrible, quoi.
Et le rhum, il est présent dans votre film Sac la Mort, mais avec beaucoup de pudeur. Parce que si on regarde vos yeux en radio, ça ne se voit pas dans l'instant 2, mais on sent que la sincérité et la sensibilité sont là aussi. Voilà, ils sont parfois alcoolisés dans leur discours, ce qui donne un créole, même j'imagine pour celles et ceux qui parlent créole, difficile à comprendre de temps en temps. Mais il est là, ce rhum, cet alcool, ces effluves, ce mal-être finalement est là, mais il n'est pas frontal dans les yeux du spectateur et dans ce film. C'est un choix ?
Oui, c'est un choix, c'est-à-dire que moi j'ai un principe, c'est que je ne veux pas rendre le spectateur de cinéma spectateur voyeur d'une situation misérabiliste, donc montrer Patrice et Charles-Henri qui seraient en train de s'alcooliser puis ivre-mort, c'est une place pour moi inadmissible pour le spectateur parce qu'on est à une place, on est assigné à ce moment-là à une place d'impuissance, on ne peut juste que culpabiliser en sortant, en allant prendre un verre ou rencontrer des amis ou pousser le chauffage plus haut quand il fait froid chez soi. Et donc, c'est une place pour moi insupportable. Donc, je me suis toujours dit, je ne veux pas faire un film sur des insectes qu'on observerait dans un bocal. Je ne veux pas faire un film où je voudrais faire croire que tout le monde est comme Patrice et Charles-Henri, ce qui est faux.
À La Réunion,
mais faire un film avec. C'est-à-dire mettre le spectateur avec eux, à leur côté, comme je l'ai été depuis 6 ans, où je les côtoie et où je ne comprends pas toujours tout ce qui se passe.
Comme le spectateur qui ne comprend pas toujours les sacrifices, qui ne comprend pas toujours la poule qui attend sagement son sort, qui ne comprend pas l'encens et les effluves d'encens, qui ne comprend pas forcément les croyances et les traditions, mais ce n'est pas grave en fait.
Bah non,
on
c'est pas grave.
Embarquer, c'est
bien
ça
sûr.
Dans le cinéma.
Bien sûr, et puis il y a une vie après le cinéma, donc on peut aussi se renseigner après. Donc c'est ça, le cinéma, ça nous renvoie à la vie.
Et la vie, c'est le cinéma.
Alors, la vie, c'est le cinéma. En tout cas, il faut qu'il y ait de la vie dans le cinéma, ça, oui. Mais la vie, ce n'est pas le cinéma, non. Je pense que le cinéma est une manière... En tout cas, moi, je suis arrivé au cinéma et je me suis accroché à ça parce que j'ai eu le sentiment que ça le cinéma allait me donner accès à la vie des autres que je ne comprenais pas bien et sur lequel j'avais une lecture purement idéologique jusqu'au moment où je suis rentré dans une salle de cinéma. Et là, soudain, j'ai eu l'impression que ça me permettrait d'aller vers les autres.
Vous avez transposé cette vision dans la manière de le faire, le cinéma aussi, et d'en être réalisateur, et bravo pour ça. C'est marrant, on a un peu la même définition de la radio. C'est rigolo, ça, finalement. Alors, on va justement écouter un entretien qui a été réalisé la semaine dernière. C'est fou comme les constellations et le hasard se retrouvent autour de la création, parce qu'on n'a pas encore cité ce mot qui est très important, et de l'identité. Patrick Chamoiseau, auteur de la créolité, j'allais même dire du mouvement littéraire et politique qui est la revendication de son identité créole pour dépasser Emmanuel Parot, la négritude portée par les Aimé Césaire, les Frantz Fanon aussi, et en faire peut-être quelque chose de plus joyeux, plus positif, et j'ose ce terme-là. Il était dans Boomerang le 28 avril sur France Inter, au micro d'Augustin Trapenard, et il nous parlait justement de son travail et de la question même de l'identité créole.
Elle n'a jamais eu aucun sens. C'est-à-dire que l'idée coloniale, qui était une idée d'exploitation, de domination, et qui essayait de se justifier par la transmission de valeurs, de civilisation, d'identité, de langue, de toute espèce de, je dirais, de principe, nous a cristallisé sur cette histoire d'identité. C'est véritablement l'identité du colon, c'est-à-dire sa langue, sa culture, son dieu, sa vision du monde, qui nous était imposée. Et bien sûr, pour nous battre depuis les années 50, et résister à cela et opérer les processus de décolonisation, nous nous sommes nous aussi embarqués dans cette idée d'identité qui a fini par se cristalliser et s'approcher d'une essence. Alors que l'identité, par définition, elle est relationnelle. C'est-à-dire que c'est un devenir constant, c'est une construction permanente qui ne peut s'envisager que dans la rencontre avec la totalité de l'autre, pas seulement l'étranger, mais aussi la nature, mais aussi presque aussi l'impensable.
Ouais, magnifique, hein, Patrick Chamoiseau. Alors, il a sorti l'éloge de la créolité, ça c'était en trio à l'époque avec Raphaël Confiant et Jean Bernabé, c'était en 89, hein, on est en 2017, il faudrait peut-être se réveiller. Emmanuel Parot, quand il dit l'identité, c'est une histoire de relationnel, et j'allais presque dire, vous qui êtes réalisateur, vous l'avez dit en début d'émission, d'émotionnel, voilà une belle définition de la créolité, ou tout simplement de ce qu'on est en fait, non ?
Ah oui, absolument. Pendant longtemps, j'ai cru que quand on était d'une culture, on n'est pas d'une autre, qu'il y avait un mur entre les deux. La rencontre qui s'est passée avec Patrice et Charles-Henri m'a prouvé le contraire. Ils sont eux-mêmes, je suis moi-même, et ça ne nous empêche pas de travailler ensemble et de partager des choses qui sont fortes et qui relèvent du genre humain, on va dire. Voilà.
Pour l'identité, justement, décrite par Patrick Chamoiseau, on va y revenir. Il y a aussi un sens d'altérité, ça il le dit, on est tous différents, vous venez de le dire, on peut quand même travailler ensemble. Il faut des amours communs. J'imagine qu'avec vos comédiens, Patrice et Charles-Henri, pour ne citer qu'eux, parce qu'il y en a beaucoup dans Sac la Mort, hein, et toute une équipe de réalisation derrière vous, il y a l'amour de la Réunion, il y a des plans magnifiques dans le cirque de Sillaos, il y a des plans magnifiques de l'océan qui frappent comme ça les rochers, qui frappent la solitude de Patrice aussi, hein, d'ailleurs, il y a un superbe plan auquel je pense là. Il faut quand même avoir du commun pour se comprendre.
Oui, alors c'est quelque chose que je n'ai pas trop analysé pour l'instant. Enfin, je l'ai fait un peu finalement dans la tournée que j'ai faite pour montrer le film dans toute la France, parce que les questions qu'on me pose me renvoient souvent à ça. Pourquoi je suis allé là-bas? Alors moi je dis que j'y suis allé par hasard, mais quand même il y a
pour
beaucoup...
Pour des repérages de films, non? C'était pas ça la première fois?
Non, pas du tout. Je faisais un remplacement. Il y avait quelqu'un qui devait encadrer un groupe pour faire des films avec des petites caméras, avec un groupe d'adolescents de Vau-en-Velin qui allait au port, une ville de La Réunion. Et il s'est désisté, il voulait passer Noël en famille à Lyon, et moi on m'a proposé, alors je me suis sacrifié et donc je suis parti là-bas.
Un beau sacrifice, partir à La Réunion, moi je me sacrifie quand vous voulez.
Mais La Réunion est un pays féerique, c'est comme si c'était le paradis sur terre, vraiment, dans lequel les hommes sont arrivés et l'enfer a été introduit sur cette île, l'enfer des relations, l'esclavage, la colonisation, enfin réellement, ça a été un enfer quand même, et et tout ça est encore très très présent dans les relations.
On l'a vu avec les violences aussi dans les dom-toms il y a quelques semaines. Hein, voilà, c'est pas réglé. Non. Parler du devoir de mémoire, c'est pas encore réglé, mais il y a toujours cette beauté qui rapproche celles et ceux qui aiment la Réunion, et qui, même sans la comprendre. C'est ça qu'on peut se dire.
Absolument, et dans le film, pour moi, c'était très important qu'on ait le sentiment que Patrice, qui a une vie difficile, vit dans un entourage qui a une présence manifeste et qui, on pourrait dire, pourrait lui remettre les pieds sur terre. Quand il va au bord de l'océan, sur cette falaise ancienne coulée de lave noire, déchiquetée, évidemment, tout ça a un sens. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... Il est en enfer, quoi. Voilà. Et cet enfer, cette présence de l'eau qui gronde, finalement l'impressionne tellement que ça le sauve et qu'il ne se suicidera pas. Et c'est, j'ai trouvé que...
Et c'est sa propre île qui le retient de se foutre en l'air, quoi.
Absolument.
Très clairement, hein. Et c'est là que la question de l'universalité, je sais qu'on va me taxer de je ne sais quoi en disant ce mot, mais je l'aime bien. Voilà, universalité, c'est comme ça. Quelqu'un qui est en train de regarder une falaise à La Réunion, moi qui regarde un film, quelqu'un de déprimé, clairement, ça nous est tous arrivés, on peut penser à un Marseillais, une Marseillaise comme moi qui va regarder la calanque de Sormiou et qui va se dire, dis donc, là j'en ai un peu ras-le-bol de la vie, est-ce que je me balance, et puis voir la lumière de Marseille se lever et se dire, non, bah, peut-être pas en fait, je vais peut-être rester un petit peu plus. C'est ça la force de votre film, c'est peut-être de ne pas imposer une vision qui soit créole, de créolité, d'île, d'insulaire, métropole, hexagone, on s'en fiche un peu, le cinéma dépasse tout ça. Et c'est peut-être aussi une satisfaction, on vous le dit.
Oui, certains me le disent. Alors, bon, par exemple, à La Réunion, c'est plus complexe parce que beaucoup de personnes sont quand même très campées dans leur, pour le coup, affirmation d'une créolité. Alors,
et c'est un acte politique dans ce cas-là, hein, bien
oui,
sûr.
Oui, bien sûr, c'est un acte politique, mais pour moi, ça recouvre peut-être une certaine faiblesse. C'est-à-dire que moi, je ne conteste pas ça. Je dis juste, je suis ce que je suis. Je suis un Gaulois, un descendant gaulois, même si j'ai du Midi quand même. Oui. Donc, par exemple, il y a un mot en créole qui s'appelle le Nervi. Le Nervi, c'est un homme de main politique et c'est comme en provençal.
Le Nervi, oui.
Donc vous voyez, il y a bien des choses quand même qui passent. Hein. Et donc, je me dis, moi, il faudrait peut-être apprendre à respecter les différences, les accepter pour que quelque chose de l'ordre d'une égalité se construise en passant par une sorte de fraternité.
Alors vous m'amenez sur un plateau, Emmanuel Parent, on est en direct dans l'instant 2. Ça, c'est quand même magnifique. Le mot que je voulais évoquer aussi avec vous et Patrick Chamoiseau, la solidarité. Voilà. Il parle de solidarité parce que Patrick Chamoiseau, je le rappelle, qui était chez Augustin Trapenard sur France Inter la semaine dernière dans Boomerang, a lancé, cet écrivain en février dernier, un appel à la solidarité avec tous les migrants du monde. C'est un sujet aussi d'importance. Et demain, mardi 2 mai, il va sortir son nouveau livre « Frères migrants ». À la fin de ce livre, il a rédigé une déclaration des poètes. On pourrait faire une déclaration des réalisateurs de cinéma. Emmanuel Parot.
Ça serait beaucoup plus compliqué.
Une déclaration en 16 articles magnifiques. En voici, je vous le propose dans l'instant 2, la dernière partie.
Frères migrants, qui le monde vivait, qui le vivait bien avant nous. Frères de nulle part, ô frères déchus, déshabillés, retenus et détenus partout. Les poètes déclarent en votre nom que le vouloir commun contre les forces brutes se nourrira des infimes impulsions, que l'effort est en chacun dans l'ordinaire du quotidien, que le combat de chacun est le combat de tous, que le bonheur de tous clignote dans l'effort et la grâce de chacun, jusqu'à nous dessiner un monde où ce qui verse et se déverse par-dessus les frontières se transforme là même, de part et d'autre des murs et de toutes les barrières, en 100 fois 100 fois 100 millions de lucioles. Une seule pour maintenir l'espoir à la portée de tous, les autres pour garantir l'ampleur de cette beauté contre les forces contraires.
Patrick Chamoiseau, dans sa voix, cette déclaration des poètes, magnifique, l'image des lucioles et du combat de tous et de chacun, non ? Surtout en ce moment.
Bah
Emmanuel
oui,
Parot.
Il y a Ostrovski, qui est un écrivain russe, qui disait cette chose. Il disait « L'intrigue, c'est le mensonge, la poésie, c'est la réalité ». Voilà, donc l'international des poètes, ils disent la vérité.
Il y a un poète qu'on aime beaucoup et qu'on a choisi cette fois-ci en musique dans l'instant 2 qui s'appelle Gaël Faye et qui chante Petit Pays. Merci d'écouter Radio Grenouille et de soutenir votre radio, votre voix comme une luciole qui porte ses ondes partout, ici, là-bas, hier, aujourd'hui et maintenant.
Gaugu Gatoyi, Gaugu Kaniniya. warapfunywe niwapfuye waragowe niwagoka gahugu gatoyi gahugu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
L'instant 2,
l'instant 2.
Prenez le temps de partager.
Sur Radio Grenouille.
Vous venez d'écouter Petit Pays avec plaisir, j'espère un plaisir aussi partagé que nous dans l'instant 2 sur Radio Grenouille et que Emmanuel Parot, réalisateur, qui ne connaissait pas cette chanson.
Et non, je découvre.
Alors.
Ben, c'est-à-dire que j'ai un stock musical très très réduit.
Vous écoutez que de la musique créole depuis que vous avez réalisé Sac à mort, seulement du Maloya, c'est ça, de La Réunion.
Non, mais c'est marrant, en fait, petit, j'écoutais très peu de musique, et donc j'écoutais les sons qui m'environnaient, et aujourd'hui, je n'ai pas de téléphone portable avec un disque dur à l'intérieur, j'écoute les sons autour de moi, en fait, et j'ai donc assez peu cette culture de la musique, en fait, mm-hmm. Et ben donc je fais avec.
Gaël Faye, mais vous faites très bien sans. D'ailleurs, vous nous donnez des images aussi, c'est bien. C'est ce qu'on attend d'un réalisateur de cinéma, d'ailleurs. Hein. Comment vous travaillez, alors, côté musical, travailler avec votre équipe dans vos films, avec les comédiens, peut-être, comme Charles Henry, qui est musicien dans
Charles Henry, il est compositeur, oui, interprète. Oui. Et son problème, c'est qu'il compose dans l'instant, il chante dans l'instant, et ensuite, il ne se rappelle plus. Donc, on a... Le prochain film, c'est lui qui aura le premier rôle. Et ça va être un film où il va être à la fois l'acteur, le rôle principal, voilà, et puis aussi le narrateur de ce rôle principal. Et il va nous raconter cette histoire en chanson. Donc il a la lourde mission d'écrire, de composer, de chanter. Non, parce que là, comme on peut enregistrer, il m'a dit qu'il était sauvé. Et donc on enregistrera et ensuite, ça sera là, il pourra répéter.
En parlant de sauver, Emmanuel Parot, vous venez de dire quelque chose d'intéressant dans le morceau magnifique Petit pays de Gaël Faye, hein, qui peut parler de nous, de chacun d'entre nous. On est tous un peu l'exilé de quelqu'un, de quelque part. Il dit que l'écriture l'a sauvé. L'écriture l'a sauvé. Est-ce que vous, le cinéma, vous a sauvé de quelque chose ?
Ah bah clairement, ça m'a sauvé de l'HP.
À ce point ?
Ah oui, vraiment.
Je ne pensais pas cette réponse en posant la question.
Non, absolument, j'étais coupé des autres. Je suis a priori quelqu'un d'assez timide, je viens d'une famille où toute expression, on va dire affective, était repoussée. Je m'étais fortement isolé, et pour moi, le cinéma a été une survie. Quand même, bon, je peux raconter des choses. Quand j'ai fini mes études d'ingénieur agricole, j'avais donc pas loin de mes fameux 22 ans, je me suis rendu compte que je ne savais plus écrire. Donc sujet, verbe, complément, c'était quelque chose qui je n'arrivais plus. J'ai passé une nuit complète à essayer d'écrire une phrase de 2 lignes pour un compte-rendu de comparaison de culture de peau de grain de maïs. Et quand mon binôme a vu ça, il m'a dit, écoute, je vais écrire le truc. Et j'ai découvert que j'étais non pas illettré, mais je ne savais plus. Il n'y avait plus d'ordre dans ma tête. Et j'ai compris que l'écrit ne m'appartenait pas, que les mots ne m'appartenaient pas et j'étais dans le chaos le plus complet. Et le cinéma m'a permis de retrouver les mots parce que soudain, c'était des images et des sons et que là-dedans, j'étais à l'aise. Là-dedans, j'étais dans ce qui était un peu ma nature plus rêveuse.
Dans La Steppe, un de vos premiers courts-métrages en 88, on voit défiler des paysages de campagne observés du point de vue d'une fillette, d'une petite fille. C'est un peu le petit Emmanuel Parot qui regarde sa campagne dans laquelle il a grandi.
Ah bah 300%, c'est exactement ça. À la fois un sentiment de grande solitude, mais aussi de symbiose incroyable avec la nature et l'environnement, oui, effectivement. Et quand j'ai fait ce film, je me suis dit, j'ai plus rien à dire.
À ce point. Pourtant, vous en avez fait d'autres. Après, il y a eu du documentaire, beaucoup, hein, des courts-métrages,
oui,
plutôt.
Alors, documentaire, en deux mots, parlons-en.
Ah, parlons-en, ouais. Emmanuel Parot. On est bien, là, dans l'instant 2. Ouais. Alors, allez-y.
Alors, c'était un documentaire très, très engagé. Un ami travailleur social était venu me voir, il m'avait dit, c'est terrible, les messages de prévention sur le sida ne passent pas du tout auprès des jeunes. C'était dans la banlieue de Lyon, à Vaux-en-Velin. Est-ce que tu voudrais participer à une recherche-action qui se terminerait par un film sur les discours autour du sida et de la sexualité ?
À propos de l'amour et du sida ?
Absolument.
66 minutes en 93.
C'est ça. Donc on a travaillé 3 ans. Et au bout de 3 ans, on fait un film. Et ce film est censuré pour atteinte à la santé publique française, incitation à la pratique de la sodomie. Et parce que...
Alors que vous faites un film pour la prévention contre le sida, c'est
absolument
ça ?
Et vous voyez, par exemple, une mère de famille disait à la caméra, écoutez, moi, on est très pauvres dans la famille. Je conseille à ma fille de ne pas d'avoir de relations par devant, mais plutôt par derrière. Comme ça, elle restera vierge pour son mariage, c'est sa fortune. Et du coup, comme elle n'a pas de relations sexuelles, vous comprenez, elle n'a pas besoin de demander un préservatif à son compagnon.
Ça, c'est dans le film.
C'est dans le film.
C'est ce qui a choqué.
Oui, on m'a dit que j'étais pire que Le Pen.
On vous a dit ça.
Oui.
Et aujourd'hui, on vous dit quoi ?
Plus rien. Et
parce que maintenant, c'est la fille. T'as remplacé le père.
C'est possible.
Enfin, qui a tué le père, vous savez. Comme ça, maintenant.
Ouais. Non, mais ceux qui m'ont censuré, je leur laisse le film censuré. Je ne demanderai et je ne veux pas que ce film ne soit plus censuré. Il a été censuré. C'est historiquement, les choses sont inscrites comme ça. On ne rattrapera pas ça. Voilà.
De quel film vous êtes le plus fier d'avoir réalisé, Emmanuel Parot ? Au-delà de Saclamant, on en a beaucoup parlé, c'est le dernier.
Ah bah zut alors, c'était mon Joker.
Ah bah d'accord. C'est vrai, c'était votre Joker ?
Oui,
ça peut être celui-ci, hein, pourquoi pas.
Oui, pour moi, Saclamant, c'est vraiment vraiment pour moi le début de ce que j'avais au fond de moi, de la façon dont je voulais l'exprimer, de la manière de travailler avec les acteurs. Et il y a tout ce que je souhaitais dans ce film. Maintenant, je veux prolonger les choses. Mais là, je pense que j'ai franchi un palier, oui.
Le cinéma et Sac la mort vous a donc, en quelque sorte, sorti du gouffre, si j'en crois Édouard Glissant.
Nous autres, peuple antillais, nous avons l'expérience du gouffre. Nous avons l'habitude des gouffres. Et que nous n'en faisons pas une histoire. Nous avons pas banalisé, mais nous avons déjà depuis longtemps pris le parti de nous moquer de nous-mêmes en tant qu'expérimentateurs du gouffre.
Édouard Glissant, magnifique poète, là aussi, de la négritude, de la créolité. Mmh. On peut aussi parler de tout ça. Le gouffre, c'était la cale du bateau, hein,
ouais,
dans lequel l'esclave était jeté. Mmh. Voilà, ça, c'est la lumière du cinéma et de La Réunion qui vous a sorti de votre gouffre personnel, j'allais dire, Emmanuel
Oui,
Parot, de la campagne aussi. Ça peut être un gouffre, attention. Hein.
Absolument. Mais voilà, par exemple, un lien qui explique pourquoi La Réunion, j'y suis attaché. On partage peut-être ça, alors chacun à sa façon. Mais effectivement, ils m'ont sorti du gouffre. Moi, je suis happé par un sentiment de tragédie, du tragique. Et en rencontrant Patrice et Charles-Henri, qui ont ce même sentiment-là, mais qui, eux, ont cette force incroyable d'en faire de la dérision, de l'humour. Et je trouve que c'est d'une pudeur absolument incroyable. C'est peut-être l'humour des désespérés. Mais pour moi, ça a fait leçon. Et c'est pourquoi aussi je voulais que ce soit leurs mots, que les mots que j'ai écrits dans mon scénario, les dialogues soient repris par eux, transformés par eux, parce qu'eux allaient pouvoir les pousser beaucoup plus loin et d'une manière que je trouve beaucoup plus riche que moi.
Quand vous faites des films, et vous disiez en début de cette émission que vous faites du cinéma pour vivre un peu la vie des autres. Hein. C'est un peu pour ça, quand on aime le cinéma, qu'on se fond dans une salle obscure et qu'on oublie le monde qui existe pour en voir d'autres. Vous faire du cinéma, c'est quoi? Vous redonner presque la parole, mettre votre histoire sur l'écran sans dire vraiment que c'est la vôtre, tout en disant je t'aime. Je sais pas, il y a un peu de ça finalement, si j'écoute votre enfance rapidement aussi.
Oui, tout à fait. Je n'aime pas dire à la première personne dans un film. Non, mais dans un film.
D'accord. Dans une émission de radio, ça va. Ouais. En même temps, c'est de vous qu'on parle, Emmanuel Parot.
Oui, c'est ça. Oui. Bon, dans un film, je pense... Moi, je me sens beaucoup plus proche du cinéma de la nouvelle vague que du cinéma contemporain qui dit trop « je », qui pense qu'il faut dire « je » pour qu'on ait un point de vue. Non, notre point de vue de notre « je », il peut être au travers du mot des autres ou au travers de leur présence. Les films de Truffaut, il n'a jamais dit « je » dans aucun de ses films, et pourtant, il est « je » partout. Et j'aime ce respect pour le spectateur de ne pas lui imposer moi, mon nombril et mes fesses, quoi.
C'est quoi votre... Parce qu'on aime bien parler de vous, on va terminer déjà cette émission. C'est quoi votre plus grand bonheur? Restons sur Sac la mort, ce film sorti en 2017, en France, en créole, partout, et bravo pour cette réussite. Votre plus beau souvenir de tournage, par exemple? Il y a quand même... Parce que vous parlez des autres et que ça fait du bien d'entendre parler comme ça aussi, un réalisateur de cinéma qui dit, bah voilà, moi j'aime ce métier et j'aime la vie parce qu'on se répond et qu'on se parle et qu'on se touche et qu'on se frotte et qu'on se dit qu'on existe et que tout à coup on est vivant à la première personne. Un souvenir du tournage qui a été avec l'équipe peut-être aussi qu'on voit pas derrière la
sûr.
Caméra.
Ouais. Eh bien, moi c'est la journée, une des dernières journées qu'on a appelée la journée HP. Ce jour-là.
HP, comprendre hôpital psychiatrique.
Oui.
Ok.
Ce jour-là.
Comme dit Kerouac, tous les fous qui laissent passer la lumière. C'est ça.
C'est exactement ça. C'est-à-dire, ce jour-là, on a eu le malheur de poser le pied de la caméra dans un endroit qui fait à peu près 2 mètres par 3 mètres et qui est en indivision entre 200 personnes. Et donc, un des 200 héritiers est venu nous interdire de poser le pied de la caméra à cet endroit. Là-dessus arrivent deux gars, un avec une énorme pierre et l'autre avec une machette. Il sortait de prison et il avait tué sa femme avec un croc de boucher et ils nous ont menacés. Finalement, tout s'est arrangé autour d'un verre de rhum. Il y en a un qui voulait que je lui donne 10 euros. Par chance, je ne les avais pas.
Laissez dans la poche si vous voulez regarder, je peux encore vous sauver la vie. Manuel Parot, voilà. C'est véridique, on l'a regardé.
Voilà, et bon, voilà, donc malgré ce chaos absolu, on a tourné la scène est dans le film et on n'a jamais eu de problème pour la monter. Preuve que, en fait, on peut faire des films en faisant à peu près n'importe quoi.
Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu, on va quand même peut-être reprendre ça.
C'est ça.
Donc ça reste une anecdote assez, assez fabuleuse, si on regarde un peu et qu'on se tourne vers, vers l'avenir. Quel film aimeriez-vous réaliser? On est le 1er mai, Emmanuel Parot. Est-ce que c'est un film sur le travail? Est-ce que c'est un film sur le lien dont on a tellement besoin de rire comme ça, comme on vient de le faire sur un sujet pourtant tragique, de trouver beau quelque chose qui parfois ne l'est pas, comme La Réunion, comme son passé esclavagiste, comme son passé colon? C'est quoi votre film idéal là, dans ces temps de crise? Il faut quand même me le dire clairement.
Ah, mon film idéal, c'est celui où... on mélangera le travail, le non-travail, l'envie de ne rien faire, le politique, les hommes politiques. Bon, et ça sera mon prochain film qui va s'appeler Mère émaillère ou jamais, où Charles-Henri, avec ses lunettes, va faire semblant d'être un aveugle. Personne n'est dupe, mais tout le monde l'accepte et ça va être l'ascension politique de Charles-Henri jusqu'au moment où il va se rendre compte que c'est terriblement ennuyeux d'être un homme politique. Il retournera voir ses copains. Alors dans ce film, il y aura Patrice qui va être sa maman, hein, pas loin. Il y aura une vieille grincheuse qui dit toujours que ça donne une mauvaise image de La Réunion.
C'est ça, donc on continue.
Donc voilà, il y aura un gros blanc, un grand blanc, dont je passe un message à Gérard Depardieu, j'aimerais que ce soit lui qui joue.
Je suis sûre qu'il écoute Radio Grenouille.
Bon, bah moi aussi,
j'en suis certaine. Ouais, on va lui envoyer, bon, franchement, on lui envoie l'émission, je vous le dis.
Bon, et je pense qu'il s'amuserait terriblement avec Patrice et Charles-Henri et qu'il serait parfait dans le rôle d'un grand blanc qui est un dépressif, qui n'arrive pas à se suicider et qui donc va préférer tuer quelqu'un pour oublier qu'il ne sait pas se suicider.
Je propose donc que ce film s'appelle HP, hein, parce que j'ai réalisé comme vous qui nous écoutez que notre invité de l'instant 2 est un peu fou et qu'on adore ça, finalement, Emmanuel Parot. Le mot de la fin, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, au-delà de vous dire d'aller voir Sac la Morte, il passe encore un peu dans les salles ou pas? Est-ce qu'au mois de mai, on pourra aller cueillir du muguet et puis sentir la vanille de La Réunion?
Bon, c'est très simple, il suffit de vous prendre un billet d'avion pour aller à La Réunion et à partir du 17 mai, il est dans toutes les salles. Bon, enfin, non, sinon, il passe en juin à Montpellier. Grâce à l'association Mosaïque Outre-mer, il passe dans une salle de cinéma. Il sera repris aussi à Montpellier début juillet. Il devrait passer à Fort-Calquier, mais j'ai pas de nouvelles. Alors, où es-tu? Réponds-moi, exploitant de Fort-Calquier. J'aimerais savoir si le film va passer là-bas. Et puis, il va passer d'ici de là. Mais enfin, bon, on a tenu 11 semaines. Hein. C'est déjà pas si mal, la galère.
Ouais, c'est une belle galère, un beau gouffre très lumineux. Merci pour cette bouffée d'oxygène d'entre-deux tours, d'entre-deux rives, d'entre-deux hexagones ou réunions. Enfin là, tout à coup, en fait, les frontières sont tombées avec votre sourire, votre regard sur les choses et votre film Sac la Mort. Et cette rencontre, on vous remercie chaleureusement d'être venu dans l'instant de Emmanuel Parot.
C'est moi qui vous remercie pour ce moment.
Bon, bah écoutez, vous repartez avec le sourire.
Oui.
C'est le principal. Merci aussi à Lauriane Toulemont et à l'équipe de Radio Grenouille d'avoir préparé avec passion et intelligence, cette intelligence qui la caractérise, cette émission, les sons de cette émission que vous avez entendu, hein, Patrick Chamoiseau ou encore Édouard Glissant, j'en passe et des meilleurs. Merci à elle pour son coup de main là aussi, à distance, à seulement 800 km, mais loin des yeux, très proche du cœur, Lauriane Toulemont. Merci à Emma Lobo de m'avoir fait connaître l'invité qu'on vous a là aussi transmis, Emmanuel Parot, ce mois-ci, de m'avoir donné la force et le courage de m'intéresser un peu plus loin à l'île de La Réunion, de m'avoir passé comme un flambeau l'amour et la violence de cette île où tout est toujours plus intense. Merci à elle qui a participé aussi à certains des films que vous pourrez voir à l'écran. Merci Emma Lobo, merci à Gilou, parce qu'on a envie d'être bisounours en cette fin d'émission, d'avoir réalisé à merveille cette émission. Et puis merci évidemment à Radio Grenouille, à toute cette belle équipe que vous soutenez. Merci pour sa confiance, puisque l'Instant 2 arrive à bientôt sa 30e émission, et ça fait quand même du bien de savoir qu'on donne la chance à la créativité, à l'amour et à l'amour des belles choses. Vous soutenez Radio Grenouille, c'est pas pour vous forcer, c'est pas pour vous mettre le couteau sous la gorge, c'est pour vous dire que jusqu'au 20 mai, eh bien pendant 20 jours, on peut toujours donner d'un euro à un million, hein, si vous voulez donner un million à Radio Grenouille, c'est possible, pour se souvenir qu'une radio associative qui a 36 ans ne marche pas toute seule, elle marche par nos efforts, par de la passion et par votre écoute et votre aide. Vous retrouvez cette campagne de soutien sur Radio Grenouille, on l'entend, ou tout simplement sur le site radiogrenouille.com. On se retrouve lundi 1er du mois de juin pour une nouvelle émission avec encore de belles surprises dans l'instant 2 à réécouter là aussi sur le site de Radio Grenouille, à réécouter sur notre Facebook. Allez, on crée une grande communauté, une communauté des gens qui s'aiment et qui aiment se frotter et se parler pour créer une nouvelle identité, celle qui nous appartient, qui appartient aux autres, à soi, bref, au monde sans frontières. Je suis un peu émue, merci à vous d'être à l'écoute et passez une belle journée, une belle soirée, un très joli mois de mai.